L'idée de faire un débat là-dessus à la journée suite à plusieurs événements, dont un qui a quand même été important en ce début d'année, c'est l'histoire de Farine de la Morlette qui avait jeté un chaton à Marseille. La Morlette, c'est un quartier de banlieue de Marseille, qui avait jeté un chaton contre un mur et qui a été filmé par des copains en train de le faire en rigolant, mais qui s'est déchaîné. Vraiment l'indignation largement au-delà de nos frontières. Et bon, lui, il s'est fait arrêter très rapidement, il a été jugé en comparution immédiate, et il s'est fait en prison. Ce qui est un exemplaire, parce que ça n'arrive jamais en cas de maltraitance animale des peines pareilles. Simplement, bon, là, il s'est trouvé qu'il s'est filmé lui-même, qu'il rigolait, que ça a vraiment suscité une indignation particulière. Mais vraiment, ça a été une indignation qui a été extrêmement violente. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un déchaînement de fureur à son encontre. Les gens parlaient quasiment de l'écarteler, de l'émasculer, de le violer, de l'assassiner, de le découper en morceaux, de le torturer, etc. Et ça a duré pendant des jours et des jours. C'était assez immonde. Et puis, il y avait énormément de propos discriminatoires à la clé. Alors, raciste, c'est un gars qui s'appelle Farid, il vient des quartiers, donc des trucs anti-quartiers aussi. Et puis homophobe, du style sale bébé, je sais pas quoi, ou putophobe, sale pute, fils de pute, etc. Enfin, il y a eu un déchaînement assez ahurissant. Et ça a été. Et puis ce qui explique aussi la peine qu'il a prise, c'est une sorte de peine exemplaire sous la pression populaire, quoi. Et il y avait à Marseille, il y a une association qui s'appelle Alarme, donc qui a présenté avant-hier sa campagne contre un centre d'exception, et qui s'est fendue d'un communiqué de presse qui était intéressant parce que qui dénonce comment ça s'est enfin qui dénonce d'une part l'acte de cruauté envers ce chaton, mais qui dénonce aussi ce déferlement de violence et de haine tous azimuts envers ce dénommé Farid, et qui rappelle que la violence envers les animaux, c'est pas le fait d'une personne isolée sur un cas ponctuel, et en plus d'une personne des quartiers de Marseille, etc., mais que c'est un fait généralisé dans notre société, que ça concerne des milliards ou des centaines de milliards d'animaux, que c'est au quotidien, que c'est complètement banalisé, etc., et qui donc pose la question de ce type de réaction. Qu'est-ce qu'il cache et est-ce qu'il ne cache pas l'ensemble de l'exploitation animale, en fait, d'une autre façon? Même s'il il peut permettre de la révéler aussi, quoi. Voilà, et puis c'est un communiqué de presse aussi qui condamnait, du coup, à la fois le déchaînement de violence et à la fois les caractères discriminatoires qui apparaissaient à travers ça. Et puis, en fait, ne serait-ce qu'au sein du groupe de Alarme, quand le communiqué de presse a été envoyé sur la liste générale pour discussion, dans l'heure qui ont suivi, il y avait deux personnes qui se sont désinscrites de la liste. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le communiqué au point A, au point tel, qu'elles se sont désinscrites. Alors que c'était un communiqué qui était, qui faisait pas du tout l'impasse sur la souffrance du chaton, qui faisait, auquel on pouvait rien reprocher, je pense, d'un point de vue de faire avancer les choses d'un point de vue animaliste. Donc c'est pas pour ça qu'elles se sont rendues, quoi. Enfin bon, du coup, de fait, je ne sais pas si dans le mouvement animaliste, il y a plus de pensées réactionnaires, ou racistes, ou sexistes, ou que sais-je, ou homophobes, que dans le reste de la société. C'est inquantifiable. Et puis j'imagine que ça dépend peut-être aussi de ce qu'on appelle pensée réactionnaire, ou sensibilité réactionnaire. Je vais essayer d'en parler. Moi, ce que j'en ai tiré, bon, je pense que... Les points que moi j'ai relevés, ce n'est pas nécessairement les points que d'autres personnes auraient relevés, et il peut y avoir une discussion aussi là-dessus, je pense. D'une certaine façon, c'est sûrement un peu extensible à l'infini. Moi j'ai relevé ceux qui sont apparus comme tels pour essayer de caractériser ce que c'est que la pensée réactionnaire. Alors d'abord, bon, moi je suis égalitariste et pour cette raison je suis engagé contre le spécisme, mais aussi comme je peux contre le racisme, contre le sexisme et contre d'autres discriminations. Alors égalitariste, ça veut dire que je suis partisan d'une considération égale des intérêts de tous. Théoriquement, donc indépendamment de l'appartenance à quelques groupes que ce soit, de sexe, de race, de classe, etc. Mais dans la pratique, ça vise plutôt à l'abolition de ces groupes-là. Je suis contre le spécisme, c'est-à-dire une discrimination fondée sur l'espèce d'un individu. Ça, c'est une définition de philosophie morale, mais donc une discrimination arbitraire, parce que le critère de l'espèce n'entretient aucun lien logique avec la question de comment on devrait traiter quelqu'un. Mais c'est un terme, le mot spécisme, qu'on peut aussi utiliser comme on utilise les termes racistes ou sexistes, c'est-à-dire pour désigner un discours, ou plus globalement qu'un discours, une idéologie. Ça, c'est une définition politique. À ce moment-là, le spécisme, c'est l'idéologie fondée sur l'appartenance d'espèce qui justifie et qui banalise l'exploitation des humains. Ça, c'est une définition politique et non plus de philosophie morale, même si les deux sont très liés. Du coup, j'ai essayé de définir un petit peu des termes qui permettent ensuite de voir pourquoi j'ai considéré des trucs réactionnaires, par exemple. L'éthique ou la morale, je dis comme éthique ou morale. La vision du monde, le système de valeurs qui oriente la réponse qu'on donne à la question « qu'est-ce que je vais faire ?» ou « que dois-je faire ?» ou « qu'allons-nous faire ?» Donc c'est une question plus de morale globale que politique. Et en tant qu'égalitariste, je pense que la seule morale logique... Enfin, donc c'est pas en tant qu'égalitariste. Je pense que la seule morale logique, universelle et véritablement prise en réalité, avec la réalité, c'est celle qui prend en compte de façon équivalente les intérêts de chaque individu, c'est-à-dire de tout individu affecté par une action. Ça, c'est ma position et c'est pour ça que je suis égalitariste. Ça, c'est le rapport, c'est la définition que je donne de l'éthique de morale. Par contre, j'appelle moralisme un type de rapport au monde qui s'attache à juger les individus en bien ou en mal, en bon ou en mauvais. Plutôt que les actes. Moi, personnellement, je pense que les individus, juger les individus, c'est pas une bonne chose, que c'est contre-productif à plein d'égards, que ça n'a pas beaucoup de sens, et que ce qui importe, c'est d'avoir une évaluation des actes, de porter un jugement sur les actes, et de porter un jugement sur les actes, en fait, en fonction de leurs conséquences, et de leurs conséquences pour les êtres sentients qui sont, les êtres sensibles qui sont affectés. Donc, je me distancie de ce que j'appelle le moralisme qui consiste à juger les individus. Ce que j'appelle politique, c'est tout ce qui concerne la vie en collectif, la vie de la cité, c'est-à-dire tout ce qui concerne aussi la mise en œuvre de l'éthique à un niveau collectif, commun, partagé. En général, je n'utilise pas le mot politique dans son sens restreint de politicien ou électoral. C'est un truc que j'aimais autant préciser, parce que c'est un mot que j'utilise tout le temps, le mot politique, mais voilà, ne pas confondre avec la politique politicienne. Et enfin, j'en viens à donner des définitions pour progressisme et réactionnaire, qui vont être un peu différentes, je crois, de celles que donne David, mais j'appelle progressiste tout ce qui va dans le sens du progrès moral, c'est-à-dire dans le sens d'une meilleure prise en compte égalitaire des intérêts de chacun, et qui vise donc aussi à l'abolition des discriminations d'espèce, mais de sexe, de race, d'âge, de classe et toute autre discrimination. Et j'appelle réactionnaire, à l'inverse, tout ce qui va à l'encontre du progrès moral, c'est-à-dire à l'encontre de l'égalité de toutes et tous. Et dans une certaine mesure, alors je me disais que je n'allais peut-être pas développer ça là, mais je dirais qu'il est également réactionnaire ce qui va à l'encontre de l'autonomie de chacun et de chacune et de tous et de toutes. Mais c'est un peu un élargissement de la première définition. Et de façon générale, les réactionnaires à ce moment-là, ce qui permet de court-circuiter l'exigence éthique, l'exigence de justice. Et bien souvent, comme je compte un peu le détailler, en donnant de la valeur non plus à l'individu, mais à une entité supérieure, un collectif entre guillemets, comme la nation ou la nature, l'humanité ou la race, etc. Ce que j'appelle les collectifs des entités, c'est-à-dire que ce n'est pas des êtres réels, c'est des catégories qu'on institue comme étant des collectifs, comme désignant des collections d'individus, mais qui sont plus que ça. Quand on pense à la nation, l'intérêt de la nation dans la bouche de De Gaulle ou Mitterrand, ce n'est pas l'intérêt de chaque Français, c'est autre chose, c'est complètement autonomisé, c'est complètement indépendant. Et si je voulais aussi définir le mot fasciste, puisque ça figurait dans l'intitulé et que je vais quand même en parler, mais au sens strict, un fasciste, c'est un partisan d'un système politique autoritaire, nationaliste, populiste entre guillemets, puisque le mot populiste il vient du peuple, c'est peut-être pas un hasard s'il a été aussi utilisé de façon négative. En soi, être populiste, on pourrait imaginer que ce ne soit pas connoté négativement. Voilà, éventuellement à tendance totalitaire aussi. Mais bon, plus généralement, on appelle fascistes des gens qui sont des partisans des hiérarchies sociales en général, blanches, masculines, adultes, humaines, de classe, etc. Artisans de la réduction des individus à leur communauté, leur entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas le choix de choisir leur communauté. Et artisans de la soumission donc, des individus à leur idéal collectif, celui qui correspond à la, et à leur groupe. Ce qui correspond à leur communauté, celle qui leur est assise. C'est souvent, généralement, des gens qui sont élitistes, qui exaltent la force, la violence, la grandeur, et qui s'appuient sur des mystiques romantiques et le mépris, un mépris assez généralisé, et notamment un mépris d'intelligence. Alors, je vais essayer de parler un petit peu de la pensée réactionnaire, aussi dire que je... Pour ce qui est du mouvement animaliste, moi je me sens beaucoup plus préoccupé par la présence très importante de pensée réactionnaire ou de rapport au monde réactionnaire ou de sensibilité réactionnaire dans le mouvement animaliste que de la présence de fascistes dans le mouvement animaliste. Je pense que cette présence étonnamment est faible. Alors si on prend vraiment la définition fasciste partisan d'un État autoritaire, un système politique autoritaire, nationaliste, etc. En tout cas, des fascistes organisés, il y en a très peu. Il y avait un groupe qui s'est dissous, qui comprenait l'assassin du jeune antifasciste Clément Méric, là, qui était la section défense animale. Mais c'était un groupe, je crois, qui comprenait 3 personnes, qui existait depuis un an et qui ne faisait pas grand-chose. Lui, il a eu une grande visibilité, du coup, suite à cette horrible affaire-là. Et puis sinon, il y a Brigitte Bardot qui a été condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale et qui, par ailleurs, a appelé à voter Marine Le Pen aux dernières élections européennes, qui en même temps n'est pas nécessairement membre, c'est plutôt une compagnon de route, je pense qu'une membre comme ça du Front National. Mais Brigitte Bardot, il y a plein de gens qui la soutiennent pour ce qu'elle fait pour les animaux, qui sont complaisants envers ce qu'elle dit. Il y a sûrement des gens qui le partagent entièrement, mais je ne trouve pas qu'ils s'expriment énormément, et en tout cas, ils ne sont pas organisés. Enfin, je les rangerais plutôt dans le cadre sensibilité réactionnaire que dans fasciste. Et de même, la Fondation Brigitte Bardot, je pense que ce n'est pas une organisation fasciste du tout. Ça ne les empêche pas de publier dans l'info journal l'éditorial en général de Brigitte Bardot, et il est arrivé au cours des dernières années, à plusieurs reprises, qu'il y ait des éditoriaux qui soient vraiment extrêmement insultants de manière raciste et aussi éventuellement homophobes, qui ont été publiés dans l'info journal. J'ai l'impression que c'est plutôt qu'ils n'ont pas bien le choix par rapport à ça. Le gars qui dirige la fondation, enfin une sorte de dauphin, de fils spirituel de Brigitte Bardot, c'est Christophe Marie, qui est un gars qui a déjà proclamé de sa bonne foi par rapport à ça, qui dit qu'il est élu de sensibilité de gauche. Et de fait, il y a les campagnes de la fondation contre l'abattage rituel et halal, dont je vais parler un petit peu, qui sont, je trouve, tendancieuses, et qui sont tendancieuses aussi de par le contexte politique global. Mais sinon, je ne trouve pas que la Fondation se distingue particulièrement par des rhétoriques réactionnaires, et même des fois on trouve des articles qui peuvent être, que moi je qualifierais de progressistes dedans. Donc je pense que ce n'est pas une organisation à proprement parler réactionnaire, malgré le fait qu'elle ait publié des trucs qui sont vraiment extrêmement violents de Brigitte Bardot. Alors là, je me rappelle moi particulièrement d'un édito de Brigitte Bardot qui était vraiment, que j'avais trouvé ignoble, où elle parlait de, bon, c'était, elle partait des abattages rituels et des abattages rituels, mais après il y a des logorées verbales anti-immigration où elle utilisait des mots comme prolifération ou population, et ce qui est extrêmement violent parce qu'en fait ce sont les termes justement qu'on utilise quand on veut mener une campagne spéciste d'extermination des rats ou des cafards, et qu'on utilise quand on, quand on commence à vouloir... Ah, voilà.
Censure.
Je sais pas s'il y a tant besoin que ça du micro. Ben, du micro. Ah oui. Bon. Ouais, ça marche pas.
C'est vrai.
Ah bon ?
Ouais. C'est tant que ça arrive.
Ah ouais. Bon. Oui, donc c'était vraiment extrêmement violent. Et là, pour le coup, je trouve aussi qu'il y a encore un parallèle à faire sur les implications du spécisme et racisme, c'est que c'est des... Au départ, c'est des termes qui sont appliqués aux animaux, qui étaient appliqués là aux populations, à des populations ciblées, et puis c'est pas innocent, c'est des populations qui sont déjà ciblées, c'est-à-dire que, qui s'en prennent déjà plein la gueule, et là ça fait qu'en rajouter une couche de façon extrêmement violente, quoi. Donc c'est pas un petit truc cette histoire. Bon. Mais encore une fois, là je dis, je pense que la FBB, c'est autre chose. Et je ne sais pas ce qui va... Là, Brigitte Bardot est une femme qui a 80 ans. À un moment donné, il va y avoir une succession. Notamment, je pense qu'il risque d'y avoir des batailles de succession pour reprendre la fondation. Et peut-être que je me trompe lourdement, mais en tout cas, j'aurais tendance à souhaiter vraiment ardemment que Christophe Marie, qui est aujourd'hui à la tête de la fondation Brigitte Bardot, puisse y rester, puisse continuer à la gérer. Et je pense que j'ai le sentiment que ça en sera fini avec ce genre de choses, quoi. Et que la fondation sera vraiment deviendra quelque chose avec lequel on peut travailler vraiment de façon. J'espère. Voilà. J'ai Christophe Marie, quand il proclame de sa bonne foi de gauche, c'est pas non plus une gauche très exigeante. C'est un peu style PS et c'est pas non plus dénué de sensibilité réactionnaire, ce type de sensibilité. En tout cas, c'est pas le fascisme pur et dur. Quoi. Bref, c'était un peu un aparté, parce que ce que je voulais dire, c'est que du coup, je vais pas tant parler du fascisme au final dans la... Mais peut-être on pourra revenir là-dessus, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses, ou avec ce que je dis. Je vais pas tant parler du fascisme donc, dans le milieu animaliste, mais vraiment de la pensée réactionnaire, de la sensibilité réactionnaire. Et que ce que je trouve important, parce que je trouve ça beaucoup très répandu, très diffus, très difficile à critiquer, et on s'attaque... On s'attache très peu à critiquer un mode de sensibilité, un mode de rapport au monde ou un mode de pensée qui est peu déterminé, qu'on s'est peu attaché à essayer d'isoler, de décrire, de circonscrire, enfin de... Je ne trouve pas le terme. Qu'on s'est peu attaché à identifier, voilà. Donc là, je vais vous présenter un peu, moi, les débuts d'identification qui peuvent être donc les préludes à débat là-dessus, parce que je n'ai pas du tout la science infuse, surtout sur un sujet comme ça. Et puis moi, je vois ça aussi d'une toute autre, enfin, je veux dire, justement, en tant que personne privilégiée dans cette société, c'est, à mon avis, certain qu'il y a plein de pans de ce qu'on pourrait appeler pensée réactionnaire qui m'échappent. Alors, quelques traits spécifiques que je considère comme particulièrement réactionnaires, dans quelques milieux que ce soit, mais en particulier dans la défense animale, donc. De façon générale, je dirais la croyance et l'adhésion en un ordre social, ou naturel, ou divin, mais tout aussi bien un ordre moral, qui serait vénérable. C'est ce que j'aurais tendance à appeler le holisme, cette histoire d'ordre, vraiment, une sorte de globalité. C'est la totalité, l'ordre social, naturel ou moral, et son ordre qui importe, et auquel les individus doivent sacrifier. Alors, un exemple de ça, c'est le naturalisme, par exemple, qui semble bien constituer le socle mystique sur lequel s'est bâtie notre civilisation contemporaine. Donc vénération pour la nature, en croyance que la nature est un ordre, vénération pour le retour à la pureté d'un monde préhumain, prendre la nature comme un modèle, comme quelque chose qui nous donne des idées de ce qui est juste ou pas, infaillible, etc. Bon, d'autres exemples assez différents de ce que je pourrais appeler holisme, ça va être par exemple le nationalisme, ou à mon avis l'humanisme, qui est aussi une forme de holisme. Quelque chose qui va avec cette vénération de totalité et d'ordre, c'est la volonté panique, je dirais, de maintenir les frontières. Alors, les frontières nationales, les frontières de genre, les frontières d'âge, les frontières d'espèce, etc. Et les hiérarchies, qui généralement vont avec. Chacun à sa juste place, sous peine de chaos. C'est-à-dire que s'il y a des changements dans ces hiérarchies et dans ces catégorisations, tout de suite on crie au chaos, à la dégénérescence, à la décadence, à la perversion, etc. C'est-à-dire à la destruction de l'ordre. Alors, dans le mouvement animaliste comme ailleurs, il existe une volonté de différencier à tout prix les humains des autres animaux, ce qui peut paraître paradoxal. Hop. Oui, il veut bien marquer la différence et la hiérarchie. Une bonne illustration, je trouvais, c'était un lynchage verbal extrêmement violent dont avait été victime Peter Singer, parce qu'il avait écrit un texte sur la zoophilie, qui n'était pas un texte du tout pro-zoophilie, qui était un texte sur la zoophilie, où il s'interrogeait sur pourquoi les gens étaient si anti-zoophilie alors qu'ils mangeaient par exemple les animaux. Et il a été traîné dans la boue avec une violence incroyable. Et sans qu'aucune réponse argumentée de sa part ne puisse apaiser ce que j'ai appelé la légitime colère des justes. Donc ça, c'est un exemple. Il y a autre truc que je caractérisais, c'était du coup aussi la vénération de l'action, de la violence, de la force, du droit du plus fort, de la loi de la jungle, de la prédation, et finalement de la soumission des faibles à l'ordre des forts. L'éloge de la violence, elle lie bien souvent à la défense de l'ordre. On retrouve cette notion d'ordre que j'ai placée au début. Les gardiens de l'ordre affirment d'autant plus l'importance et la sacralité de l'ordre que la répression est sévère à l'encontre de ceux qui font des ordres. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la pensée, je trouve que c'est assez net dans les extrêmes droites, mais que c'est quand même quelque chose qui peut être plus diffus, mais aussi plus généralisé dans la population, qui est que pour bien marquer l'importance de l'ordre national, par exemple, on va rendre la répression à l'encontre de cet ordre national extrêmement violente. Et plus elle est violente, et plus d'une certaine façon, ça consacre l'importance de l'ordre. Mais c'est transposable à l'ordre moral, à l'ordre naturel, à l'ordre divin, etc. Quelque chose, je trouve qu'on pointe très peu de doigt, et que moi qui me semble super important, et je trouve que ça vaudrait carrément un mouvement de libération, ce sujet-là, qui n'existe pas, c'est l'idéologie de la responsabilité, de la culpabilité, de la criminalité, qui voudrait que les fautifs, j'ai mis entre des guillemets fautifs, c'est ceux qui font des ordres justement, qui vont à l'encontre de l'ordre, ça peut être la loi, très souvent c'est la loi, mais qui est... n'aient plus droit à avoir leurs intérêts pris en compte, contrairement aux innocents. J'ai mis des guillemets à innocents aussi. Parce que c'est, là, ce que je récuse, c'est l'idéologie de l'innocence et de la culpabilité. C'est une médaille à deux faces, quoi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un animaliste, que je ne pense pas être un fasciste, déclaré, qui revendiquait hautement qu'on devrait faire de l'expérimentation qui est aujourd'hui animale, sur les pédophiles et sur les assassins d'enfants, plutôt que sur les animaux. Moi, c'est ce que j'appelle du fascisme ordinaire, en fait. Notre société, elle est très profondément ancrée sur cette distinction entre innocent et coupable, ou fautif. Et de façon très générale, tous les massacres sont précédés d'une culpabilisation, entre guillemets, des groupes à détruire. Les massacreurs se voient eux-mêmes toujours comme des innocents, comme des justes qui se défendent légitimement. Et bon, on voit ça avec quand il y a eu la volonté de criminaliser Saddam Hussein, ce qui a permis de détruire aussi son peuple à l'occasion, etc. On l'a accusé de pire un truc. On soutenait avant, quoi. Et pas la même chose avec Kadhafi. Bon, là, mais on le voit de façon plus. Je vais en parler, mais on le voit de façon beaucoup plus concrète au quotidien à travers un certain nombre de réactions dont je parlerai tout à l'heure. Papa. Ce qui va avec ça, un autre point, c'est. Ils sont interreliés les points, c'est un petit peu arbitraire les distinctions que j'ai faites. Ou alors il aurait peut-être fallu que je me livre à une analyse plus rigoureuse pour faire des séparations plus nettes. Un autre point, c'est cette volonté de trouver des boucs émissaires qui soient à l'origine de tout le mal. Alors pour les fascistes, ça peut être des étrangers ou des dégénérés, qui sont de la vermine ou des cancers. Mais par exemple, pour les animalistes d'il y a 20 ans, c'était beaucoup les bisecteurs qui étaient vraiment présentés comme des monstres inhumains et bestiaux, leur manque d'humanité, etc. Moi, je trouve que pour les antifascistes, très souvent, c'est les fascistes qui tiennent ce rôle-là et qu'ils n'hésitent pas à traiter de rats, de porcs, etc. Je trouve que les types de. Enfin, il y a vraiment une sorte de démonisation en fait, qui est du même type, quoi. Et le bouc émissaire est le diable. Tout ce qu'il fait est mauvais ou est rejeté. Et fréquenter de quelque façon que ce soit, c'est se laisser contaminer et devenir contaminant soi-même. Donc il faut prendre, mettre toute la distance possible. Et à mon avis, n'est pas nécessairement toujours la meilleure façon de faire politiquement. Ensuite, plus généralement, alors oui, je passe au point d'après, mais que je viens d'évoquer, qui est la hantise de la contamination, de l'impureté. Pour les fascistes, il ne faut pas se mélanger avec les individus des races inférieures, ou avec les étrangers, ou avec des décadents contre nature. Mais à une autre échelle, et de façon qui n'est pas non plus, qui est comparable au niveau des mécanismes en cours, mais pas au niveau de la violence et tout ça, mais. Pour certains vegan puristes, ils n'ont rien à faire avec les végétariens ou des mangeurs de viande, etc. C'est, selon cette option, que je pense être particulièrement défaitiste, l'ivraie est toujours susceptible de pourrir le bon grain s'il y en a leur contact. Voilà, c'est un point. Sinon, un point général, toujours. Alors, j'espère que je ne vous assomme pas avec plein de trucs un peu denses. La confusion entre groupes et catégories et individus. Groupe ou catégorie, ça peut être espèce, genre, nationalité, classe, etc. C'est une confusion qu'on retrouve partout à toutes les sauces. La confusion entre un niveau individuel et un niveau collectif, et aussi la réduction des individus à une entité de groupe. Pour moi, c'est une des sources premières de ce qu'on pourrait appeler une pensée fasciste. C'est quelque chose qui est évidemment totalement commun dans notre culture. Dans une civilisation. L'étranger est réduit à son caractère d'étranger, devient représentant du groupe étranger, extérieur hostile, c'est-à-dire le représentant étranger. Les animaux sont perçus comme des spécimens à différencier de leur espèce, de même que les racisés de leur race et les femmes de leur sexe. C'est des exemples de ce type de. Ce que j'ai appelé confusion entre groupe et individu. Mais je pense que ça pourrait vraiment être catégorisé de toute façon. Et quelque chose, j'en viens à un autre trait de caractère pour moi de la sensibilité réactionnaire qui me semble fondamentale et qui me semble souvent résumer beaucoup des choses dont j'ai parlé avant, c'est le positionnement identitaire communautaire qui soucie de mettre en avant un « nous » entre guillemets et un « eux » entre guillemets. Et la recherche de gratification identitaire, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve à plein de niveaux différents. Donc c'est clairement ce qui fonde, je ne sais pas, moi, les nationalismes, les communautarismes dominants. Communautarisme dominant, ça va être le communautarisme masculin, le communautarisme blanc, des trucs comme ça, ce que j'appelle comme ça. Mais plus près de nous, je trouve que ça existe aussi, alors encore d'une façon qui est peut-être moins disruptive. c'est par exemple le positionnement identitaire vegan, qui postule souvent qu'être vegan, c'est une marque de supériorité morale. Je pense que ça a des conséquences antipolitiques, ça génère des façons de militer qui sont déviées de leur but affiché et qui au final ne vont pas vraiment dans la direction d'un monde nouveau meilleur. Et de façon générale, que la recherche de gratification identitaire maintient l'illusion d'agir pour les animaux. Mais par exemple, le nombre de véganes en fait se contentent de tenter de convaincre les autres de la supériorité morale de leur propre parti pris et ne sortent guère de leur groupe de référence où ils se confortent mutuellement dans leur bonne conscience et font peu pour changer la société qui organise l'oppression des non-humains. Mais bon, là je prends les véganes parce que c'est un sujet qui m'est cher et qui m'est proche, mais et qui nous est tous proches. Quand je dis les véganes, évidemment, c'est une généralisation et une caricature, mais je trouve qu'il y a cette tendance en tout cas. Mais je trouve qu'on retrouve les mêmes obstacles dans tous les mouvements minoritaires qui peuvent du coup générer un élitisme qui devient en lui-même attractif si l'on décide de faire partie du groupe et qui est tout à fait répulsif pour les autres gens. Quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui est un problème sérieux de la politique depuis longtemps maintenant, une sorte de confusion entre positionnement identitaire et lutte politique. Ça fait vraiment beaucoup de sujets qui seraient chacun des sujets de débat pendant 10 heures, je pense. Un dernier point, qui est un petit peu différent des autres, mais c'est l'hostilité à la science, et en particulier autrefois dans le mouvement anti-vivisection, qui est en fin de compte une hostilité à l'appel à la raison, aux arguments et au final à l'éthique. Plus généralement, l'hostilité au discours logique, argumentatif, raisonné, l'exaltation de l'indignation qui prouve que la personne qui s'indigne est du bon côté des frontières morales, alors ça c'est très présent dans la défense animale, l'éloge de l'action aussi opposée stupidement à la réflexion qui va dans le même sens. Alors l'éloge de l'indignation, moi je trouve que l'indignation c'est une excellente chose, c'est vraiment, ça peut être le point de départ de l'action politique pour changer les choses, ou politique ou d'ailleurs pas politique. Individuelle. Mais souvent l'indignation, elle devient quasiment une sorte de fin en soi, son propre accomplissement. Elle se suffit à elle-même. Et je trouve que le milieu de la défense animale, il y a quand même ça très fortement. Il se trouve que le milieu de la défense animale, il se caractérise par la défense des animaux, que les animaux, c'est des sortes de victimes idéales parce que elles n'ont pas de parole elles-mêmes. Un peu comme les enfants, on retrouve les mêmes schémas, les mêmes attitudes, les rapports au monde, tout dans les milieux de la protection de l'enfance, pas les milieux institutionnels, pas les gens de l'aide sociale à l'enfance, mais dans les milieux qui se soucient de protection de l'enfance et qui, contre les maltraitances à l'enfance ou contre les abus sexuels, etc., qui sont énormément dans l'indignation, mais souvent ça ne va pas au-delà. Et nous, ça donne l'impression qu'au final, le but principal, c'est de se donner soit une bonne image de soi, comme au final d'un pur, d'un juste, à l'encontre de ceux qui sont identifiés comme des monstres, qui sont les maltraiteurs. Quoi. Voilà. Ce qui relie énormément des points que j'ai énumérés, c'est, je pense, la bonne conscience, la volonté de bonne conscience, que je pense être une condition nécessaire à tout fascisme, mais qu'on trouve évidemment aussi développée à gauche et à l'extrême droite. De façon générale, je pense qu'on devrait avoir moins souvent bonne conscience dans tous les domaines, malheureusement. Du point de vue de la lutte animaliste, on n'a pas beaucoup à nous glorifier. Enfin, si les animaux pouvaient avoir un point de vue critique sur ce qu'on fait pour eux et pouvaient le formuler, je pense qu'on ne serait pas à la fête. Notre engagement est loin d'être à la hauteur du défi que représente la lutte contre le spécisme ou pour la fin de l'exploitation. La recherche de notre conscience, ça me paraît lié à la culpabilité qu'on porte en nous, que l'éducation que nous avons subie nous a impliquée étant enfant. Je crois que c'est un palliatif désespéré à la culpabilité, à la mésestime de soi, au mépris de soi. Et que s'il est très difficile de s'en libérer de la culpabilité et aussi du mépris de soi et de la mésestime de soi, qu'on peut par contre veiller à ne pas tomber dans les écueils que j'ai décrits plus haut. Quoi. Alors, je n'ai pas décrit par le menu ces différents volets de ce que j'appelle sensibilité réactionnaire par pur moralisme, pour me distinguer des réactionnaires. Je ne pense pas que ce soit possible, de toute façon. Mais parce que je pense que ces réactions diverses produisent des attitudes qui nuisent à la droiture, à la force du mouvement animaliste. Ça, c'est une citation de Steve Areus qui disait, qui parle dans le dossier qui avait été consacré à la question de la zoophilie dans les pays antispécistes et où elle avait écrit un texte qui s'appelle Lyncher pour ne pas être lynché, sur les réactions hyper violentes qu'il y avait eu sur ce sujet. Et donc elle parle d'attitudes qui nuisent à la droiture et à la force du mouvement animaliste. Et je pense qu'effectivement, ces attitudes qui ne vont pas dans le sens d'une prise en compte accrue des intérêts de tous, mais dans une direction inverse qui tend à exclure de nombreuses catégories de toute prise en considération. Et que c'est, ça peut être latent en temps normal, mais en temps de crise, ça trouve vite son emploi et ça trouve vite les populations cibles auxquelles s'appliquer. Je pense que ces positionnements, ces postures, ces pratiques que j'identifie comme réactionnaires, d'une certaine façon, sont pro-fascistes. Et c'est pour ça que j'avais mêlé les deux thèmes. Voilà. Qu'est-ce que... Je propose d'arrêter là. En fait, j'avais plein d'autres volets, mais sinon, on n'aura pas de temps de discuter. Je pensais bien discuter. Si ça vous va, j'arrête là, cette énumération. Et puis David prend ma suite. Et on peut savoir entendre.